Amen. J'espère que vous allez bien. Je voudrais introduire mon message par une réflexion autour de la foi. La foi, c'est notre fondation spirituelle. Souvent les Écritures, ou en tout cas, et je vais placer les choses encore dans un contexte un peu plus précis, souvent Jésus parle de la foi. Et de la foi qu'il voit chez les autres. Souvent, d'ailleurs, les textes des Écritures sont encourageants parce que quand on voit la foi de ces hommes et de ces femmes qui sont approchés de Jésus et qui ont vu la gloire de Dieu, c'est une source d'inspiration spirituelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des passages dans les évangiles qui, je ne trouverais pas ça normal, qui doivent nous remuer dans nos tripes. Je ne sais pas vous. Des fois, je prends les évangiles et je lis les évangiles et ma foi est boostée. Vraiment, mes frères et sœurs, on ne doit pas tomber dans l'habitude de la lecture de la parole. On ne doit pas tomber dans l'habitude de ce qu'on lit pour, au final, ne plus ressentir ce que le Saint-Esprit a à nous dire et être sensible à ce que ces hommes et ces femmes ont vécu au regard de Jésus sur la foi de ces hommes et ces femmes. Par moments, on doit aller chercher une énergie, une volonté, un désir, une soif de voir Dieu agir. Vous êtes là? Est-ce que... Enfin, je vais dire comme ça, on va... Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être un passage où Dieu a fait mention de la foi et peut-être c'est ce que vous avez lu cette semaine et moi ce passage où Jésus voit la foi de ces hommes et ces femmes, leur foi m'a interpellé et m'a encouragé. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un passage juste comme ça là? Allez Lucien, le paralytique, d'accord, lequel? Ok, un autre. La femme à la perte de sang, oui, tout à fait. Un autre. Allez, on y va. Les quatre paralytiques sont un texte qui m'a particulièrement interpellé. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais déposer sur votre cœur. Et j'ai intitulé mon message « La foi efficace » ou « La foi inspirante ». Moi, je crois que ces textes des Écritures sont des spirituelle sur laquelle nous devons nous appuyer. Et une des choses que Jésus va dire de la foi, pas du paralytique seulement, hein, mais notez le texte, il va s'afficher. C'est le chapitre Marc, chapitre 2, verset 5, ça devrait y aller. Jésus voyant leur foi, pas simplement celle du paralytique, il va dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et la suite est un passage extraordinaire où Jésus va débattre avec des scribes et des pharisiens qui vont remettre en question le fait que Jésus puisse pardonner les péchés. Et Jésus va dire « C'est quoi le plus simple ? Qu'est-ce qui est le plus simple ? De guérir cet homme ou de lui pardonner les péchés ? À votre avis, quel est le plus simple ? Si Jésus peut guérir, il peut pardonner les péchés. Et si Jésus peut pardonner les péchés, il peut le guérir. » Donc, ce qui est possible à Dieu et qui est impossible aux hommes, Jésus est en train d'affirmer sa divinité dans ce passage-là. Et oui, et il va terminer ce passage de façon extraordinaire. Sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Wouh ! Maintenant, ce qui moi m'interpelle, c'est cette foi que Jésus va voir dans ces hommes. Et ça, c'est un passage, je trouve, extraordinaire quand on y réfléchit. Et je voudrais, pendant quelques instants, qu'on oublie le texte. Et je voudrais qu'on fasse un espèce de reset de la compréhension qu'on peut avoir de ce texte. Et j'aimerais qu'on se plonge dans l'histoire de cet homme, de ce paralytique. Et je vais revisiter un peu le texte. Ça vous va? Je vais rester fidèle à la parole, ne vous inquiétez pas. Mais je vais mettre des trucs à ma sauce. Marc chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après... Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Souvent, et la tradition raconte que Jésus a habité dans la maison de la belle-mère de Pierre. Vous savez ça? Et si vous avez l'occasion d'aller à Capernaum, vous pourriez voir éventuellement une maison qu'on vous dit « Ah, mais ça, c'est la maison de la belle-mère de Pierre. » Une maison hexagonale, octogonale, je crois, pour vous qui êtes allé à Israël. Et ils ont fait une église dessus. Et... semble-t-il que Jésus avait établi son camp de base à Capernaum pour répandre la bonne parole dans toute la Galilée. Et de là, Jésus rayonnait. Et on se retrouve dans ce passage-là où, après quelques jours, Jésus donc revint chez lui, ou en tout cas dans sa ville d'adoption, à Capernaum. Et ils ont appris que Jésus y était. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et là, dans ce contexte-là, Jésus annonçait la parole. Là-dessus vient quatre hommes. C'est la suite. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et je laisse 3 points de suspension parce que c'est très intéressant de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce passage. Souvent, je suis resté souvent interpellé du contexte spirituel dans lequel on est ou du contexte tout simple dans lequel on se trouve. Une foule est devant la porte et ces hommes ne peuvent pas transporter leur ami. Je me suis souvent dit, ah punaise, il pourrait laisser quand même passer le paralytique, non ? Je ne vous ai jamais dit ça ? Quelle bande d'égoïstes ! Je me suis dit, à un moment donné, il a quand même besoin de Jésus, cet homme. C'est pas comme s'il faisait semblant non plus. Il n'est pas en train de simuler. Il a besoin de Jésus. Et pourquoi ? Jusqu'à ce qu'on vive, et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une ambiance de foule. Vous avez déjà vécu ça ? Lorsqu'on vivait à Paris, souvent quand on allait prendre le RER en pleine heure de pointe, vous avez la foule. Je pense que tous ceux qui ont pris le RER en heure de pointe savent de quoi je parle. Et si vous êtes au milieu de la foule, vous ne pouvez plus rien faire. Ils rentrent, vous rentrez avec, ils sortent, vous sortez avec. Alors on pense par moments que d'être dans une foule constituée d'individus, ça amène sa logique. Non, la foule a sa propre logique. Ouais, vous voyez le truc là ? La foule a sa propre logique. Et là, finalement, vous pourriez avoir un moment d'intelligence de vous dire « Ah, je veux sortir », que vous ne pourriez pas. Vous pourriez avoir la volonté de laisser passer le paralytique, que vous ne pourriez pas le laisser passer. Et ça me rappelle un autre événement qu'on a vécu à Paris, où c'était quelque chose d'assez particulier, où lors d'une conférence que nous avions organisée au Bataclan à l'époque, on avait décidé d'inviter Nicky Cruz, et on nous avait prévenu, vous savez, Nicky Cruz, ça déplace quand même du monde. Méfiez-vous, méfiez-vous. Alors du coup, le premier jour, l'après-midi, on commence cette conférence, et très honnêtement, on a été déçus, parce qu'on nous a dit, il va y avoir plein de monde, plein de monde, plein de monde. On était sur les starting blocks, on s'est dit, on va gérer les groupes, on va gérer les personnes, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je crois qu'on n'a pas rempli la moitié de la salle. Déception, oui, non, mais en tout cas, on s'est dit, ah ben, tranquille, comme on dit ici. On a un peu lâché la vigilance et on s'est dit, bon, ben, ça va bien se passer. Arrive le soir, aux alentours de 6 heures, ça commençait à arriver, on commence à avoir des amas de personnes qui commencent à s'assembler. Je me dis, c'est encore gérable. J'étais en coordination générale, je vais voir les autres équipes, on est partout à la fois. Et en l'espace d'une demi-heure, je reviens, il y avait 1000 personnes devant la porte. Et ce n'était pas encore 8 heures. Je me dis, oulala, il va falloir commencer à gérer la foule et le public. Je dis à mes équipes, écoutez, ça serait bien de les canaliser. Une foule, ça devient compliqué à canaliser. Et quand on atteint un certain stade, je crois qu'il y avait plus de 2000 personnes qui attendaient dehors, c'est devenu ingérable. La foule avait sa propre logique. Et dans la logique de cette foule, c'était de rentrer absolument. Sauf que, à un moment donné, ça dégénère parce que les gens poussent. On a des gens qui sont sur les barrières. Les gens finissent par escalader les barrières. Et là, on sent que ça dégénère. Les gens rentrent, on ne compte plus, on ne sait plus quel nombre il y a. Il y a le responsable de la salle qui me dit « Mais là, ça ne va plus du tout, vous ne gérez plus vos flux, vous ne savez plus combien on est. » Et à un moment donné, on voit la foule commencer à être en mouvement, commencer à pousser, les barrières commencent à tomber. Nous, on est là en train de retenir les gens nous passent dessus presque, nous marchent dessus. Le régisseur de salle débarque, il prend la clé, il décide de fermer le rideau. À un moment donné, quand la logique d'une foule prend place, c'est fini. On peut avoir une foule de gens sensés que ça n'a plus de sens. Et on se retrouve un peu dans cette situation-là où les gens qui sont dans la maison à écouter Jésus, sans dans une logique. J'imagine la chose, parce que le texte est assez précis sur la quantité de personnes qu'il y a, sur le fait que je pense qu'ils étaient tous agglutinés les uns et les autres. C'est un peu comme dans le RER, hein. Je ne sais pas si vous avez pris le RER dans une période bombée. Hein, hein. On peut sentir l'haleine de la personne qui vous respire dans l'oreille, là. La transpiration et tout. Moi, je pense qu'ils étaient arrivés à ce stade-là où Jésus il avait juste la place de faire eh, voilà, soyez bénis. On est arrivé dans une situation un peu compliquée, complexe, où la pièce où Jésus se trouvait bondée, et sans doute que la foule est amassée à l'extérieur aussi, en train d'essayer de grappiller ce qu'ils peuvent entendre de Jésus, tellement ils ont soif de vivre Jésus, tellement ils ont soif d'entendre Jésus, au point qu'à un moment donné, vous pourriez avoir un paralytique qui est là, que personne ne le voit. Personne ne l'entend. Pris dans une dynamique de foule qui est dans une aspiration de voir Jésus. Et ces hommes-là vont tenter tout ce qu'ils vont pouvoir tenter. Les quatre hommes sont là à essayer de trouver des solutions, à marcher et à avancer. Et si je devais donner quatre caractéristiques de cette foi-là qui est censée nous inspirer, moi j'aimerais vous dire, on va remettre le verset, s'il te plaît, j'aimerais poser un élément de foi comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. J'avais mis trois petits points au départ. La question que je me pose, c'est où s'arrête la persévérance de notre foi? C'est important, ça. Parce que la foi est un élément central de ce que nous vivons avec Dieu. La foi est une chose tellement essentielle. Et plus j'avance avec Dieu, parce que bien souvent, on est à cheval sur plein de choses, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a soif de vivre avec Dieu. Moi, j'ai soif de vivre ce qu'on a chanté. Hein. Oh, Seigneur, je suis tout seul. Moi, j'ai soif de vivre ce qu'on a chanté ce matin. Moi, j'ai envie de voir ça. Sauf qu'il est une réalité spirituelle. Vous pourrez contourner tout le problème, chercher toutes les possibilités possibles. Un élément est central pour voir la gloire de Dieu, c'est la foi. Il y a des passages qui sont censés nous interpeller. Et dans ce que je comprends, au plus je marche avec Dieu, au plus j'avance avec Dieu, au plus je saisis des réalités qu'on lit, qu'on entend, mais je voudrais laisser Hébreux 11, 6 sur ton cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Faites le schéma inverse. Donc, ça veut dire qu'avec la foi, tu vas lui être agréable. On est d'accord avec ça? C'est tellement important de comprendre qu'on peut suivre Dieu, être dans une démarche, dans une réflexion, même être très intellectuel dans notre vie avec Dieu, vivre la sainteté, des paramètres qui sont essentiels et qui sont tellement importants dans notre marche avec Dieu, et puis se rendre compte qu'à un moment donné, notre foi se rationalise, je pourrais dire, perd un peu son sens, perd un peu sa saveur. Et nous amène à être dans un raisonnement humain, dans une réflexion humaine de ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, des miracles que l'on est supposé vivre. Et on est en train tout simplement de dériver dans une foi qui ne croit plus, en fait. Alors on a foi en Dieu, mais a-t-on encore foi dans ce qu'il peut faire? Et ce qui est magnifique dans ce texte, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ces hommes-là, ces quatre hommes, sont animés d'une passion. Et je vais employer, et d'une foi tellement déterminée. Alors quand ils voient un obstacle, quand ils voient la foule assemblée là, ils ne sont pas en mode en train de se dire, bon ben, à cause de la foule, eh ben, on rentre chez nous. Peut-être cette année, ta foi va être tentée, mon frère, ma sœur. Ta foi va être mise à l'épreuve. Peut-être la foule sera à l'entrée des bénédictions de ta vie. Peut-être les murs seront ont des oppositions et des schémas, des forteresses qui pourraient éventuellement t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et tout ça ne sert qu'à un but, à t'arrêter sur le chemin, à voir ta foi défaillir. Mais il est une réalité, c'est que pour celui qui persévère, il voit la gloire de Dieu. Une foi persévérante est une des clés de ce qui va nous amener à voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, je prêchais ça à Toulon. Peut-être un jour, je le prêcherai ici. Mais souvent, souvent la détermination a été une clé dans la démarche de foi, dans ce que nous vivons avec Dieu. La femme syrophénicienne, vous la connaissez cette femme ? Oh là là, punaise ce texte. Moi, il me prend la gorge chaque fois que je le lis. C'est des textes où j'ai envie de dire, Seigneur, mais cette femme, elle vient, elle supplie Jésus, elle se met aux pieds de Jésus, elle crie. Les disciples, ils en ont ras-le-bol. Ils disent à Jésus, débarrasse-toi d'elle. Lisez, débarrasse-toi d'elle. Elle crie après nous, dis-lui un truc. Et Jésus fait mine de rien entendre. Waouh ! Là, il faut s'accrocher. Hein. Mais attendez. Et quand à un moment donné, les disciples disent à Jésus, dis-lui quelque chose. Elle crie après nous. C'est super gênant. En plus, si vous voulez être discret, hein, lisez le texte. Passez Samarie pour être tranquille ou passez par le... Ah, je ne sais plus. Vous m'avez compris. Et alors qu'il cherchait à éviter les problèmes, l'agitation, il y a cette femme qui se met à crier après Jésus. Les disciples sont gênés, disent à Jésus, dis-lui un truc, qu'elle nous lâche les baskets. C'est clairement ça, hein, qu'elle nous lâche. Et Jésus se retourne et il y a une violence dans ce texte. Parce que Jésus lui dit, mais je ne suis pas venu pour toi. Qu'est-ce que tu veux ? Et il y a tout un échange qui va se mettre en place entre cette femme et Jésus, avec un paroxysme où Jésus va lui dire, mais tu sais quoi ? On ne donne pas le repas des héritiers aux petits chiens. Ah ouais, Seigneur, c'est toi qui dis ça ? C'est chaud. Mais elle, cette femme, elle est animée d'une persévérance qui, moi, souvent m'interpelle. Mais tu sais, Jésus, les petits chiens, là, bah, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et comprenez, il est une réalité dans la dynamique de foi. Si Dieu voit que ta foi peut aller plus loin, il va y aller. Parce que Dieu aime ta foi. Vous avez conscience de ça ? Et souvent, ça nous échappe complètement dans ce que Dieu, par moment, nous amène à vivre, dans ce que nous pouvons passer, ce par quoi nous pouvons passer. Mais il est une réalité, c'est que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Par contre, s'il y a la foi, tu es agréable à Dieu. Et s'il voit un potentiel de foi chez toi, oh, il va l'alimenter. Il va l'alimenter. Et il va pousser certaines fois dans des retranchements. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus savait qu'il y avait quatre hommes qui étaient en train d'amener un paralytique à lui. Non, ça ne vous a jamais traversé l'esprit ? Peut-être Jésus aurait pu dire, attendez, laissez-moi passer. Il faut que j'aille guérir quelqu'un dehors. Non, il ne va jamais faire ça, Jésus. Pour autant, moi, je suis convaincu que Jésus savait. Il savait ce qui était en train de se passer. Il savait qu'il y avait quatre gars qui étaient déterminés à rencontrer Jésus, à amener un paralytique à lui. Jésus sentait qu'il était en train de se passer quelque chose. Et là, dans ce contexte, Jésus continue à enseigner et les quatre hommes sont dehors en train de se poser la question, comment on va y aller ? Et ce qu'il va faire, en tout cas, ce qui va les amener à vivre ce qu'ils vont vivre, c'est une foi persévérante. Et moi, ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas lâcher, à ne pas désespérer, à croire contre toute espérance, à imaginer que Dieu est capable de faire et de changer les situations, à penser que quels que soient les obstacles qui peuvent être là devant toi et qui pourraient se dresser dans ta vie, à croire encore en ce Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Et alors que ces hommes-là sont dehors en train de se poser la question, animés d'une foi persévérante, c'est là que j'aimerais, moi, vivre des temps, je vous le dis souvent, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre la discussion qu'ils vont avoir à ce moment-là ? Pas vous ? Certes, ils sont animés d'une foi persévérante. Il y en a un qui arrive, il dit, et si on passait par les fenêtres ? Ah, bah, regarde, il y a 10 personnes sur la fenêtre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et le toit ? Mais toi, t'es un génie, toi ! Jésus, il est dedans. Pourquoi tu veux monter sur le toit, là ? Et j'imagine ces conversations entre ces quatre hommes en train de se dire « Ben oui, le toit, enfin, le toit !»« Oui, le toit, et quoi ?»« Ben, si on faisait un trou dans le toit ?» Non, mais à un moment donné, il faut bien se dire qu'ils ont eu cette conversation quand même. Ils se sont pas regardés en se disant « on va faire un trou, on est tous d'accord ». Et là, vous savez, dans les discussions qu'on pourrait avoir, vous avez tout type de personnes, ils sont 4, voire 5 avec le paralytique, parce qu'on pourrait en parler lui aussi. Et lorsqu'il y en a un qui a la brillante idée, on va passer par le toit, il y en a un. Je crois qu'en tant qu'ingénieur des matériaux et des structures, ça va poser problème à la structure de la maison si on commence à perforer un trou dans le toit. Pas sûr que la dalle va résister au poids. On se retrouve encore avec André et Philippe, hein, vous les voyez arriver là. Hein. On est dans le même schéma. Puis alors après, vous pourriez en avoir un autre qui va dire « Attends, non mais on ne va pas déranger quand même. » Jésus est en train de prêcher. Ça pourrait poser quelques problèmes de faire un trou dans le toit. Peut-être Jésus va être perturbé dans sa prédication, on ne sait jamais, c'est vrai. Il faut être prédicateur pour comprendre qu'un téléphone, qu'un bébé qui crie, on fait si que ça ne nous fait rien, mais on est profondément déstabilisé. Hein. Venez à ma place. Et souvent, dans ces moments-là où il y en a un qui a une brillante idée, peut-être il y a les réflexions. Et finalement, dans ces réflexions-là que ces quatre hommes vont pouvoir avoir, ils vont décider de finalement monter. Et j'imagine quand même le paralytique dire « Vous savez ce que vous faites ?» Je marche plus déjà. Hein. Faudrait pas que ça soit pire. Hein. C'est jamais quand même. Et voilà nos amis en train de creuser sur le toit. Je vais parler d'une chose qui est assez perturbante, mais moi je crois que par moment, Dieu va nous amener à vivre une foi qui est créative. Je pense que souvent, face aux situations que nous rencontrons et la difficulté que nous avons que nous pourrions avoir face aux circonstances et face aux schémas d'opposition qui sont devant nous, c'est d'avoir l'inspiration de comprendre là où Dieu veut nous conduire, veut nous amener pour vivre l'extraordinaire. Je le dis souvent. Mais je l'ai dit pour les 5 pains et 2 poissons, mais je pourrais prendre tellement d'exemples où Dieu nous interpelle sur la façon dont il a de résoudre les situations. Souvent, Dieu est animé de l'Esprit-Saint. La foi créative, ça va paraître bizarre là ce que je vais dire. Moi, je crois que c'est un instrument du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu nous met des directions. On est dans des schémas tellement fermés et puis... Et moi, je voudrais encourager quelqu'un à demander au Saint-Esprit qu'il te montre ce que tu dois faire là. Parce que tu es comme ces hommes, en dehors, pris dans une situation, tu veux aller à la rencontre de Jésus, tu veux vivre Jésus, mais là, aujourd'hui, il y a tellement d'obstacles qui te font dire que jamais je pourrais atteindre Jésus, jamais je pourrais vivre Jésus. Et là, à un moment donné, dans ton cœur, tu pourrais très bien dire « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas », jusqu'au moment où tu peux demander au Saint-Esprit « inspire-moi ». Montre-moi la porte que je ne vois pas. Montre-moi la fenêtre que je n'ai pas encore explorée. Montre-moi le chemin qui sort des évidences de mon esprit. Parce que par moments, on est prisonnier de notre logique. Vous avez déjà été prisonnier de votre logique ? Moi, ma logique, elle m'énerve. Et des fois, je discute avec des amis, j'explique ma logique, et ils me disent « Ah, t'as pas pensé à ça ?» Non. En effet. Et je me dis, punaise, il faut que lui, il pense, et pas moi, quoi. Alors, du coup, je vous dis, c'est intéressant quand même d'avoir des amis par moment. Hein. Ça vous aide à réfléchir. Mais très clairement, je vois dans ce passage-là ce temps où ces hommes-là, après avoir fait le tour de la question, vivent une inspiration divine qui sort de tous les sentiers battus, qui m'amène à dire, punaise, mais comment ils ont pensé à un truc pareil ? Moi, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit va nous amener à penser différemment. Et par moments, on trouve des solutions inattendues dans l'inspiration que Dieu nous donne. Et moi, je voudrais encourager l'Église à vivre l'inspiration de Dieu. Parce que quand tu es prisonnier de ta logique face à une situation, peut-être le Saint-Esprit a la solution que tu n'as pas vue. Amen. Aussi, une foi créative, inspirée, est un élément essentiel. Et alors qu'on démarre cette année 2024, j'ai envie d'entendre des témoignages de personnes qui vont me dire « Pierre, je ne savais pas comment m'en sortir. » Et puis là, tu pourrais dire que c'est toi. Oui. Ou tu pourrais juste reconnaître que le Saint-Esprit m'a éclairé. Et là où tu ne vois plus de solution, Dieu est en train de te dire « Hé, il y en a une à laquelle tu n'as pas encore pensé,
Et t'inquiète pas, tu vas passer par le toit. Il y a quand même quelque chose de particulier. Parce que j'ai terminé sur un des gars qui s'est posé la question en se disant « Ouais, mais si on fait un trou dans le toit, on va gêner. » Imaginez un instant ce qui se passe en bas. Jésus est en train de prêcher, annoncer la bonne parole. Ils sont tous entassés les uns sur les autres. Et puis à un moment donné, on pense souvent que les choses se sont passées simplement. Mais pour ceux qui sont dans le bâtiment, ouvrir une dalle, c'est quand même compliqué. Hein, même si on est d'accord, ce n'est pas du béton armé, ce n'est pas des ourdis, il n'y a pas de poutre, on est d'accord. Mais ça reste quand même poussiéreux. En général, c'était des planches ou des bois qu'ils mettaient. Ils mettaient de la terre dessus, du foin. Au fur et à mesure qu'ils ont commencé à gratter, en dessous... et moi, j'imagine Jésus en train de prêcher avec passion et en train de perdre son auditoire. Il a beau être le meilleur prédicateur du monde, quand le toit au-dessus de votre tête est en train de s'effondrer, Jésus a perdu tout le monde. Et alors que le toit est en train de s'effondrer plus ou moins, il y a des morceaux qui tombent. J'imagine la belle-mère de Pierre, quand même, qui arrive. Le chapitre avant, elle était malade, elle avait la fièvre. Jésus l'a guérie, là, c'est l'infarctus. T'inquiète pas, Jésus est là. Mais je me suis dit, punaise, on s'attaque à ta maison, tu vas rien dire. En dessous, ça a dû être une cacophonie, un bins pas possible, en train de se poser des questions, se dire, mais qu'est-ce qui se passe, mais comment ça se fait, machin. Et là, un trou commence à apparaître. Jésus lève la tête, le trou devient de plus en plus grand, la poussière de plus en plus imposante. En dessous, ça commence à, les gens commencent à s'enfuir, peut-être à sortir en se disant, mais c'est la maison qui est en train de s'effondrer. Par moment, notre foi va être disruptive. Ouah, le mot là, trop violent. Elle va gêner. Et franchement, on est en plein milieu d'une prédication là, le toit est en train de s'ouvrir. Vous n'êtes pas en train de vous dire, il y a un problème ? À mon avis, je n'ai même pas besoin de vous dire de sortir, vous êtes déjà sortis. Hein. Et là, dans ce contexte-là, Jésus, sans doute, garde son calme. Peut-être qu'il est en train de se dépoussiérer la veste. Et là, dans ce contexte-là, on fait descendre le paralytique au milieu de tout ça. Et je vais vous dire une chose. On peut percevoir ce texte et comprendre ce texte de deux façons. On se met à la place des hommes qui sont en train de descendre, en train de se dire, notre ami va être délivré. Et on peut être à la place de la foule qui est dans la pièce en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je vais terminer mon histoire avec le Bataclan, vous voulez bien ? Parce que je n'ai pas fini. Alors que la foule essaie de rentrer, que les barrières sont en train de tomber, que les gens rentrent en nous marchant presque dessus, une mère nous bouscule. Avec sa fille, elle arrive. Et alors que le rideau est en train de descendre, elle prend sa fille de 7 ans et elle la jette. Je me rappelle de voir sa fille glisser devant moi, passer sous le rideau, et je regarde la mère, et elle est contente. Mais je l'ai jugée, cette femme. Je l'ai jugée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce... Mais attends. Alors du coup, c'est ma femme qui a récupéré la petite. Elle t'a disputé la mère. Et vous savez, ce vécu-là m'a tellement travaillé parce que je me suis dit souvent, mais comment on peut faire un truc pareil ? Comment on peut balancer sa fille ? Comment on peut faire une chose pareille ? Parce que comprenez, il n'y a personne, elle ne connaît personne la petite à l'intérieur de la salle. C'est une salle de 1200 personnes. Il y a des organisations, il y a des organisateurs. Elle prend sa fille, elle la jette. Et puis, à un moment donné, il y a ce rideau de fer qui la sépare. Et je me suis dit, mais attends. Mais qu'est-ce que je l'ai jugé, cette mère ? Une foi disruptive. Quelle mère peut faire ça ? En fait, je me suis souvent posé la question de ce que la foi peut nous amener à faire. Et dans certains extrêmes, ce que la foi peut nous amener à faire. Alors je peux éventuellement juger cette femme et me dire, c'est pas pensable. Et puis à un moment donné, je me suis dit, et si sa fille était en train de mourir? Et si son espérance était qu'en assistant à cette réunion, sa fille soit totalement guérie? Moi, dans cette femme, j'ai vu ces quatre gars ouvrir le plafond. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je n'ai pas envie de nous encourager à ça. Je laisse Jésus le faire, en fait. Parce qu'à cause de leur foi, Jésus va guérir cet homme. Et souvent, je me suis retrouvé, interpellé encore à revoir cette mère, à balancer son enfant sous la grille, en train de me dire, mais bon, comment on peut en arriver là? Et vous savez, dans cette mère, j'ai vu Jaïrus en train de supplier Jésus d'aller délivrer sa fille. Dans cette mère, j'ai vu la Syrophénicienne qui hurle après Jésus en lui disant, mais viens sauver ma fille, viens sauver ma fille. Et par moments, notre foi pourrait venir sur le terrain du non-conventionnel, du non-approprié, peut-être en lien avec notre culture, des choses qui viennent nous chercher. Et c'est vrai que dans cette image du paralytique, il y a ceux qui sont en train de descendre cet homme, et puis il y a ceux qui sont autour. Et je me dis, Seigneur, où est-ce que j'ai envie d'être, moi? Je pose la question parce que, naturellement, on va s'associer aux gens qui sont choqués de ce qui se passe. Et punaise, ceux qui sont en train de vivre le miracle. Ce n'est pas ceux qui sont en train de critiquer. Ils vont le vivre aussi. Mais ceux qui vont voir le miracle, ce sont ceux qui sont disruptifs. Qui vont ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Et qui vont se moquer des conséquences et de ce qui pourrait éventuellement se passer à partir du moment où ils se disent « Mais notre ami va être sauvé. » Jésus va dire « À cause de leur foi. » Ce n'est pas un appel à faire n'importe quoi, comprenez-moi. Mais par moments, je me dis c'est la Syrophénicienne qui va voir sa fille délivrée, c'est Jaïrus qui va voir sa fille guérie, c'est Bartimée qui va retrouver la vue. Et notez le point commun qu'ils ont tous. Ils sont sortis des sentiers battus. C'est dur, hein? Mais pourtant, c'est ce que nous disent les évangiles. Et alors qu'ils sont en train de descendre ce pauvre monsieur dans des draps, sans doute. Lui, il a dû se dire, Seigneur, enfin, faudrait pas que ça soit pire. Ils vont descendre cet homme, et là, Jésus va voir cet homme assis, au coucher plutôt. Et voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là, en effet, quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient, au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est pour le plaisir. Hein. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, alors j'aime autant vous dire que s'il était en capacité de comprendre et d'entendre ce qui se passait dans leur tête, il savait qu'il y avait quatre hommes qui étaient dehors. Quel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je vous avoue qu'ouvrir une trémie comme ça, c'est pas mal. Je voudrais laisser un dernier axe de foi. Parce que je pense que cette foi, elle était nourrie aussi d'un amour profond. C'est sans doute des gens qui se connaissaient, peut-être de la même famille sans doute, peut-être un père qui amenait son fils auprès de Jésus, accompagné de ses autres frères. Difficile de dire ce qu'il en est exactement. Mais cette foi, elle est nourrie d'un amour profond. Et cette année, et alors qu'on, la semaine prochaine, lundi, demain, on commence ce temps de jeûne et prière, je voudrais mettre toutes les armes possibles de notre côté, surtout dans la dynamique dans laquelle on va commencer ce temps de jeûne, puisque on parle de combat spirituel. Et dans cette vision-là du combat spirituel, quelque chose doit aller nous chercher. Je pense que ces hommes étaient nourris d'un amour profond pour ce paralytique, pour montrer autant de persévérance, mais croire que Dieu était capable en effet de délivrer. Laisser peut-être le Saint-Esprit les guider dans cette attitude assez surréaliste, de dire, on va ouvrir un toit, on ne peut pas rentrer, qu'à cela ne tienne, on trouve une solution, on passe. Je crois que la parole en parle tellement souvent, de l'importance de l'amour dans tout ce que nous faisons. Et alors qu'on commence ce temps de jeûne et prière, je voudrais nous rappeler l'importance de la foi et l'importance de ce qui va nous nourrir lorsqu'on va rentrer dans le combat. Je ne sais pas quel fardeau tu vas amener pendant cette semaine, parce que l'objectif, vraiment, c'est qu'on remporte des victoires. D'ailleurs, je commence le jeûne avec vous, là, par ce message. Il y a vraiment une volonté de nous mettre sur les starting blocks, hein, comprenez. J'attends que le coup de départ. Je pense qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de porteurs de paralytiques. Il y a peut-être des mamans qui portent leurs enfants. Il y a peut-être des frères qui portent des sœurs qui portent des frères, des sœurs qui portent des sœurs. Ça, je dis ça pour ma femme et ma belle-sœur. Peut-être qu'il y a des épouses qui portent leur mari. Peut-être qu'il y a des maris qui portent leurs épouses. Je pourrais détailler le truc, vous m'avez compris. On est tous porteurs de quelqu'un. On a tous le cœur qui vibre aux avancées de ce que nous portons, qui pleure avec ce que nous portons. Quand on les voit souffrir, quand on les voit en difficulté, quand on les voit dans un combat, dans une lutte, quand on les voit dans la peine, dans la tristesse, on est tous porteurs. Et je voudrais ce matin t'encourager, parce que l'amour que tu portes pour celui que tu es en train de porter, pardonnez-moi le pléonasme, l'amour que tu portes est une puissance. Et je voudrais t'encourager à te nourrir de cette force en toi pour venir et rentrer dans ce temps de jeûne et prière. Moi, je veux qu'on sorte de ce jeûne et prière en disant « Le paralytique marche ». Moi, je veux qu'on sorte de ce jeûne et prière en disant « L'aveugle voit ». Moi, je veux sortir de ce jeûne et prière en me disant que des victoires sont remportées, des situations sont bouleversées, des changements se sont opérés sur ton travail, dans ta famille, dans ce temps. J'ai envie de venir avec cette foi, peut-être simple, mais ardente, de dire « Seigneur, tu nous appelles à vivre les miracles. » Alors, je ne veux pas simplement les chanter, je veux les vivre. Alors, viens avec ton cœur. Sois peut-être Jairus, soit peut-être la syrophénicienne, soit peut-être Bartimée, soit un des quatre. Viens avec cette foi où ton cœur est directement associé, mais pas que. Viens avec cette foi persévérante. C'est peut-être que le début d'un travail, c'est peut-être que le début d'une œuvre. Mais moi, je crois que Dieu peut t'encourager en chemin. Moi, j'aimerais t'encourager à face à tes situations, peut-être une situation bloquée dans ta famille, dans tes relations. Ça arrive. Il y a peut-être au milieu de nous beaucoup de personnes qui sont en souffrance, parce que j'en connais une en particulier avec ses enfants, c'est compliqué. Seigneur, Esprit de Dieu, inspire une porte, une fenêtre, un trou dans un toit qui va permettre le miracle de s'accomplir. Je voudrais t'encourager ce matin à avoir cette foi persévérante, à avoir cette foi créative. À ne pas avoir peur de cette foi qui peut faire un peu peur des fois, qui nous amène à douter, tellement c'est disruptif, tellement ça sort des sentiers battus, tellement ça peut être gênant, tellement ça peut être compliqué, tellement à gérer. Moi, je voudrais t'encourager à laisser le Saint-Esprit te conduire et à te diriger. Parce que Jésus va voir leur foi. Cette foi persévérante. Cette foi créative. Cette foi disruptive. Cette foi remplie d'amour. Et aussitôt, le paralytique s'est mis à marcher. Alors je prie pour qu'on voit des paralytiques marcher. Je prie pour que nous puissions voir des paralytiques marcher au milieu de nous. Vous l'avez bien compris quelques instants. Les disciples, à un moment donné, vont dire à Jésus, augmente notre foi. Vous avez compris l'importance de ce que pouvait être la foi. J'aimerais peut-être poser une question à ton cœur et à ton âme. Où en est ta foi? Je vais être très clair, le but de mon message, c'est de nous mettre sur les starting blocks, sur ce temps de jeûne et prière. Mais si ta foi est à zéro, ce matin, c'est l'occasion de remplir les batteries. C'est l'occasion de remplir les jerrycans. Parce que ta foi, elle a perdu son essence. Parce que ta foi, elle est plus persévérante. Parce que ta foi, elle est plus créative. D'ailleurs, peut-être elle n'a jamais été. Ta foi, encore moins disruptive. Ta foi, il y a peut-être encore l'amour qui est là, mais porter aujourd'hui est devenu compliqué pour toi. Tu portes un fardeau, tu portes tes enfants, tu portes une situation. Et tu es peut-être comme ces quatre hommes à l'entrée d'une maison qui est bondée, en train de te dire, il y a tellement d'obstacles, je vais abandonner. Ce matin, je ne connais pas ce que tu vis, ou peut-être je connais certaines situations, mais je ne connais pas tous les cœurs et toutes les vies qui sont là ce matin. Et ce matin, je voudrais parler à ton cœur de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit peut mobiliser une fois encore ta foi. Peut mobiliser encore ton espérance. Peut faire émerger des cendres, une espérance nouvelle. Une foi encouragée, une foi persévérante, une foi créative, une foi disruptive, une foi remplie d'amour. Peut-être les forces te manquent, parce que porter, c'est difficile, c'est dur, c'est lourd. Mais ce matin, je voudrais juste t'encourager à dire, Seigneur, viens, viens remplir mon cœur, viens remplir mon âme. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui te prêche, peut-être demain, ça sera toi qui viendras me voir, qui me dira, Pierre, tu te rappelles, t'as prêché ça, je voudrais te le rappeler parce que ta foi, elle n'est pas en forme. Aujourd'hui, je suis capable de prêcher, merci Seigneur, je suis capable de te le dire. Peut-être un jour, ça sera toi qui me le dira. Aussi, je veux accepter avec beaucoup d'humilité qu'aujourd'hui, c'est moi qui t'en parle, mais demain, ça serait peut-être toi qui m'en parlera. Alors, comme on est dans cette humilité, on n'est pas là à jouer ce qu'on n'est pas ou à paraître ce qu'on n'est pas. Tu as le droit ce matin de dire, ma foi, elle est au ras-les-pâquerettes. Je crois encore en Dieu, mais en ce qu'il peut faire, qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai porté, je me suis fatigué. J'ai essayé de persévérer, mais je me suis découragé. J'ai essayé de trouver des solutions, mais je ne l'ai pas vue. Je continue à aimer, mais qu'est-ce que c'est dur. Est-ce qu'on pourrait prier les uns pour les autres ce matin? Et accepter que ce matin, on puisse recevoir la prière des uns et des autres. Alors, je ne vais pas faire un appel, mais je voudrais juste t'inviter à te lever. et à dire, Seigneur, ma foi a besoin d'être renouvelée ce matin. C'est tellement compliqué. C'est tellement dur. Est-ce que d'autres veulent bien se lever ce matin? Alléluia. Seigneur, tu es le rémunérateur de notre foi, comme Hébreux 11 le dit. Mais tu es celui qui, par ton Saint-Esprit, ranime notre foi. Quand le lumignon fume, tu ne l'écrases pas, tu ne le détruis pas. Et si ta foi défaille, si ta foi manque de persévérance, si face aux obstacles, t'as baissé les bras, qui a le droit de te juger? Qui a le droit de regarder à ta vie? Personne. Moi, je veux croire que ce matin, Dieu veut te rétablir dans ton rôle de porteur et d'intercesseur, peut-être. Et ce matin, alors qu'on est tous rassemblés, on est une famille, on n'a pas de regard de jugement par rapport à ce que les uns vivent ou pas, et au fait que certains se soient levés ou pas, je voudrais nous encourager à porter notre main, peut-être avec une personne autour de vous, peut-être poser une main sur son épaule, peut-être aller chercher sa main. Je voudrais vous encourager à faire un pas de foi auprès des personnes qui sont autour de vous et nous encourager mutuellement à prier pour que Dieu renouvelle la foi dans cette puissance, dans cette conviction que Dieu peut encore agir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tout le monde a un porteur ce matin pour prier pour lui ou pour elle? Est-ce que tout le monde a un porteur à côté de lui pour prier pour lui ou pour elle? Seigneur, on est une église de porteurs et on est une église de portés ce matin. Il n'y a pas de problème, Seigneur, à être une église de porteurs et de portés. Parce que les cinq vont renverser une situation. Je te remercie pour les porteurs qui sont en train d'ouvrir le toit. Je te rends grâce parce qu'il y a une armée de porteurs qui décident de se lever et de dire, viens, on va t'aider. On va monter sur le toit ensemble. On va laisser le Saint-Esprit nous guider. On va faire un trou. On va manifester une foi créative, une foi disruptive. Et on va te faire descendre aux pieds de Jésus. Ce matin, il y a une armée de porteurs et il y a des portés. Et alors qu'on s'approche de l'Éternel, alors qu'on s'approche de Jésus, Seigneur, descends au milieu de nous. Je t'en supplie, descends au milieu de nous. Remplis ce lieu de ta présence, Jésus. Que des voix s'élèvent, que des supplications s'élèvent et que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Renouvelle les forces des uns et des autres. Renouvelle la foi des uns et des autres. Ô Esprit de Dieu, agis au milieu de nous. Sois celui qui alimente notre foi. Sois celui qui alimente notre amour. Sois celui qui alimente notre persévérance, notre créativité, notre courage d'être disruptif par moments. Seigneur, que les portés deviennent des porteurs maintenant au nom de Jésus. Que les portés deviennent des porteurs dans le nom de Jésus. Que celui qui est faible devienne fort dans le nom de Jésus. Que celui qui est faible devienne fort dans le nom de Jésus.